Bienvenue aux enregistrements de l'Église chrétienne Source de vie. Nous croyons que ce message vous aidera à voir et à obtenir votre plein potentiel en Jésus-Christ. Bonne écoute.
C'est vraiment, vraiment un honneur, un privilège et une joie d'être ici, dans cette église, encore une fois. On était là il y a à peu près un an. Je ne sais pas exactement quelle date c'était, mais wow, je vois beaucoup de nouveaux visages. Ça, c'est toujours un bon signe dans une église, n'est-ce pas? De voir des visages qui s'ajoutent jour après jour, semaine après semaine. Cela veut dire que l'Église est en croissance et que l'Église va continuer d'aller de l'avant et faire un impact dans cette belle ville de Trois-Rivières. Et c'est vrai que nous connaissons Suzy depuis un peu de temps là. Et en fait, elle n'a pas mentionné, mais pendant des années, elle était gardienne pour nos enfants. On a 5 enfants. Maintenant, on a des grands enfants adultes et même une petite fille. Mais c'est vraiment une personne très chère à nous. Et aussi, Brian, votre pasteur, vous êtes béni avec des pasteurs qui ont un cœur pour le Seigneur, un cœur pour le royaume. Et je pense qu'on devrait remercier le Seigneur et les remercier également. Amen. Alléluia. Et oui, c'est ça. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour parler de nous parce que j'ai un message de la parole de Dieu qui va vraiment vous libérer aujourd'hui. Moi, je suis convaincu qu'on ne vient pas juste pour passer du bon temps et même si c'est un bon temps déjà dans la louange, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur aussi pour l'équipe de louange et pour les techniciens du son et ceux qui font l'audiovisuel? Il ne faut pas les oublier. C'est merveilleux et c'est vraiment génial. Mais c'est vrai qu'on est au Québec depuis 1994 déjà. Et on est originaire du Missouri, mais surnaturellement, dans un temps de prière et de louange. Voilà, c'est moins de distractions. Mais vous savez que c'était en 1989, et je partage souvent, les gens se moquent presque de moi parce que je dis souvent, mais j'étais dans un temps de ménage. Je faisais le ménage chez moi à Saint-Louis, au Missouri. Je passais l'aspirateur et je chantais dans l'esprit, et je chantais une autre langue. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a dit de commencer à prier pour le Québec et le peuple québécois. Je ne connaissais personne ici. C'était vraiment pour nous un mystère. Mais vous savez quoi? Et le Seigneur a dit dans la parole que quand on prie dans l'esprit, on prie en notre langue, on prie des mystères. Amen. Et le Seigneur avait un plan, il avait un projet. Et nous sommes contents d'être ici déjà depuis 1994. Et comme Suzy a dit, on est pasteur de l'Église de la vie comblée. On était les pasteurs principaux plus de 22 ans. Et maintenant, c'est pasteur Ken Mafou qui a pris le bâton pour diriger l'Église locale. Mais on a aussi le privilège et l'honneur d'avoir commencé les centres de formation biblique REMA, même ici au Québec, en Haïti. On a aidé à implanter des écoles en France et en Suisse aussi. Et donc, bientôt, l'Afrique francophone. On a déjà des bons contacts au Bénin. En juillet, je serai au Congo avec Tania pour rencontrer à peu près 700 pasteurs là-bas qui veulent avoir un centre de formation aussi. Donc, Dieu fait des grandes choses. Et ce qu'on peut dire, c'est que Dieu, il choisit les choses folles de ce monde pour confondre la sagesse des hommes. Donc, c'est pourquoi il a pu envoyer un gars de Saint-Louis au Missouri. Et ma femme et moi, on s'est rencontrés à 17 ans. On s'est mariés à 18 ans, mais on ne connaissait pas la langue française. Et voilà, le Seigneur avait... moi, je trouve qu'il a un bon sens d'humour, hein? Donc, il envoie les anglophones mais pour faire des choses, mais ce n'est pas grave. Hein? Aussi longtemps qu'on suit le plan de Dieu est béni. Amen. Et donc, ce matin, justement, j'ai dans mon esprit un message qui est destiné à nous donner la liberté. C'est un message qui va vous aider à voir la puissance de Dieu déclenchée dans votre vie. Combien de vous voulez voir la puissance de Dieu déclenchée? On a chanté à plusieurs reprises comment le Seigneur a fendu la mer en deux pour laisser passer son peuple. Hein? Et vous vous rappelez de cette histoire de Moïse qui dirigeait le peuple de Dieu qui venait de sortir de l'esclavage. Et donc, ils ont devant eux un obstacle gigantesque. Ils ont l'océan, ils ont la mer Rouge qui est devant eux. Donc, impossible de passer, impossible de traverser dans le naturel. Et en arrière d'eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'armée de l'Égypte qui vient avec les armes, avec toute leur force,
et avec une attitude aussi, parce qu'ils ne sont pas contents. Ils viennent de perdre tous les esclaves, mais aussi, n'oubliez pas qu'ils venaient de perdre aussi les premiers-nés de toutes les familles. Donc, ils viennent pour ramener en captivité ou de tuer, on ne sait pas exactement, mais ils vont faire quelque chose qui n'est pas agréable. Donc, ils sont dans une situation difficile, ils sont dans une situation grave, et donc Dieu a fendu la mer et ils ont pu traverser. N'est-ce pas merveilleux? Et comme on a dit ce matin, peu importe qu'est-ce qui est devant vous, peu importe l'obstacle, que ce soit l'obstacle d'une maladie, que ce soit un obstacle de un manque d'emploi, manque de finances ou quoi que ce soit, vous faites face à la dépression ou peu importe le problème qui est devant vous, le même Dieu qui a fendu la mer rouge, il est en nous aujourd'hui. Amen. Mais une chose que je veux qu'on remarque, c'est que la mer et les eaux de la mer restaient là devant eux jusqu'au moment que Moïse a pris une verge et c'est Moïse qui a tendu sa main. Et ce n'est pas Moïse qui avait la puissance et la force pour fendre la mer, c'est Dieu qui l'a fait. Mais Dieu ne l'a pas fait avant que Moïse a fait ce qu'il avait besoin de faire. Et ce matin, ce que j'ai dans mon esprit, c'est de parler justement de comment vous et moi, on peut coopérer avec Dieu, comment on peut collaborer avec Dieu pour voir sa puissance activée, pour voir sa puissance déclenchée et au lieu d'attendre et d'attendre et d'attendre en espérant que Dieu va un jour peut-être faire quelque chose pour changer ma situation. Peut-être un jour je vais être guéri. Peut-être un jour je vais être libéré de ce problème dans mes finances. Peut-être un jour je vais voir les circonstances changer. Non, on va voir aujourd'hui que nous avons déjà les clés et que Dieu attend qu'on fasse quelque chose. Amen. Et je vous lance le défi de parcourir la Bible et de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et à chaque fois que vous voyez les miracles, des signes et des prodiges, à presque chaque fois, c'était une coopération entre Dieu et l'homme. Dieu avait donné un ordre, Dieu avait donné une promesse, Dieu avait donné les instructions et les hommes avaient besoin de suivre les instructions de Dieu, que ce soit la ville de Jéricho. Dieu a dit que je t'ai donné cette ville. La ville appartenait au peuple de Dieu et ils avaient besoin de faire le tour de la ville de Jéricho pendant 7 jours. Et le septième jour, ils ont fait 7 fois le tour, mais ensuite, ils avaient besoin de sonner les trompettes, de pousser un cri, mais ils poussaient des cris pas après que les murs sont tombés, mais en face des murs, ils ont poussé des cris. Amen. Et qu'est-ce qui aurait... L'histoire serait tellement différente si Moïse et le peuple de Dieu aurait dit, « Bon, mais Seigneur, on attend que tu fasses quelque chose. » Non, le Seigneur attendait qu'il, par la foi, prenne le verge et qu'il tende la main vers la mer et ensuite la puissance de Dieu a agi. Amen. Dieu attendait que le peuple de Dieu pousse des cris de victoire et ensuite les murs sont tombés. Amen. Donc, on va regarder dans la Bible ce matin plusieurs versets qui vont nous aider à comprendre, surtout en tant que croyants sous une nouvelle alliance. L'ancienne alliance était déjà merveilleuse, mais nous avons une meilleure alliance basée sur les meilleures promesses. Qu'est-ce que Moïse était capable de faire? Qu'est-ce que le peuple de Dieu était capable de faire? Que ce soit David qui a tué Goliath et encore. C'est clair que ce n'est pas la force de l'homme qui a tué Goliath, c'était la main de Dieu qui aidait David à vaincre l'ennemi. Mais quand même, David a fait le premier pas aussi, n'est-ce pas? Il a osé ramasser 5 pierres, il a osé déclarer avec sa bouche qu'est-ce qu'il allait faire à Goliath, il a osé courir vers le géant, il a osé lancer la pierre et Dieu a fait le reste. Amen. Et je suis là pour vous dire ce matin qu'il y a des choses dont vous avez besoin de voir dans votre vie. Peut-être les médecins ont dit que vous avez un problème dont il n'y a pas de remède. Oh, que c'est difficile de guérir de cela. Ou ils ne savent pas trop. Ou peut-être vous avez perdu votre emploi. Ou peu importe la situation. Et on attend et on a confiance en Dieu. On croit en Dieu. On sait qu'il est bon. On sait qu'il nous aime. Mais savoir que Dieu est bon, savoir que Dieu nous aime, n'est pas suffisant. On a besoin d'agir. On a besoin de faire quelque chose par la foi pour voir la main de Dieu agir dans notre vie. Amen. Et il y a trop de chrétiens qui attendent et attendent d'une manière passive et on veut passer à l'action. Amen. Alléluia. Votre victoire vous appartient déjà, mais c'est à nous de déclencher. Et donc, on va voir Apocalypse chapitre 1. Et on va lire premièrement en verset 8, Apocalypse chapitre 1, verset 8. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Alléluia. Elle est vivante, elle est efficace, elle peut nous changer. Mais en Apocalypse chapitre 1, verset 8, Jésus-Christ, après sa résurrection, il va apparaître à Jean, qui est sur l'île de Patmos. Mais et voilà qu'est-ce qu'il dit. Il dit, « Je suis l'alpha ». On peut dire le commencement, et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. OK? N'est-ce pas merveilleux qu'on sait que Jésus-Christ, il est le commencement, il est le fin, il est le Tout-Puissant, n'est-ce pas? Mais regarde bien qu'est-ce qu'il dit, si on peut sauter jusqu'à verset 18. Est-ce que tout le monde est là? Verset 18. Verset 18, il dit, « Je suis le premier et le dernier. » Donc, on sait que Jésus est tout puissant. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Jésus est tout puissant. OK? Mais il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc, je veux qu'on voit quelque chose de super important. Jésus dit, « J'étais mort, je suis vivant et je tiens les clés. » Quelles clés? Les clés du séjour du mort. C'est-à-dire que Jésus-Christ, à sa mort, et quand il était enterré, en fait, la parole de Dieu dit qu'il est même descendu dans les régions inférieures. La parole dit en Colossiens, chapitre 1, 2 et 3, vous pouvez lire, il y a beaucoup de références qui démontrent que Jésus-Christ, à sa mort et à sa résurrection, il a anéanti la puissance du Satan, il a brisé la tête de Satan, il a désarmé Satan, et en fait, il a repris les clés que Satan avait volées de l'homme. OK? On va faire une petite parenthèse ici, et ça va nous aider à comprendre comment vous et moi, nous avons entre nos mains aujourd'hui, la possibilité d'ouvrir la porte à notre miracle, d'ouvrir la porte à la manifestation de la puissance de Dieu et toutes les choses dont nous avons besoin. Et c'est parce que Jésus, il a repris les clés que Satan avait volées d'Adam et Ève. Et en fait, il les a volées, mais il les a volées avec des mensonges. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a donné à l'homme la domination sur la planète Terre. Il a mis Adam et Ève dans le jardin. Il a dit à Adam et Ève de dominer et de se multiplier et de remplir la terre. Et donc, dans un sens, Adam et Ève sont devenus le Dieu de ce monde. Pas Dieu avec un D majuscule, mais un D minuscule, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, n'est-ce pas? Donc, Adam et Ève, ils avaient autorité. Tout le monde dit autorité. Adam et Ève avaient autorité de marcher sur la terre, de dominer sur tous les animaux et de vraiment prendre soin et même de cultiver le jardin. Ils étaient comme le Dieu des minuscules de ce monde. Mais quand ils ont désobéi à Dieu, ils ont remis les clés entre les mains de Satan. Mais quand Jésus, le deuxième Adam et le dernier Adam, il est revenu sur la terre parce qu'un homme a péché, un homme avait besoin de payer pour le péché. Donc, Dieu s'est fait chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alors, Dieu est devenu un homme et s'appelait Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, son sang a été versé, il était enterré et la Bible dit qu'il a repris les clés C'est pourquoi il a dit, j'étais mort, je suis vivant et je tiens les clés. Jésus est appelé la tête de l'Église, n'est-ce pas? Il est le chef, il est la tête et nous sommes appelés le corps de Christ, n'est-ce pas? Donc, si on tient quelque chose, est-ce qu'on le tient habituellement pas avec la bouche? On tient avec les mains, n'est-ce pas? Mais regardons quelque chose en Matthieu chapitre 16. C'est super important. Parce que qu'est-ce que nous savons, c'est que Adam et Ève avaient les clés. Adam et Ève ont remis les clés entre les mains de Satan, qui est devenu, en fait, selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, la Bible dit que si notre évangile est encore voilé, c'est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les yeux de ceux qui ne croient pas, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Christ. Donc, on sait que la Bible appelle Satan le Dieu de ce siècle maintenant, et c'est parce qu'il avait pris les clés. Mais le deuxième Adam, Jésus-Christ, il est venu, il a écrasé la tête de Satan, il a repris les clés, et qu'est-ce qu'il a fait avec? C'est ça qu'on va voir maintenant. Matthieu chapitre 16. Alléluia. Matthieu chapitre 16. Je vous dis quelque chose. Si vous laissez le Saint-Esprit vous parler ce matin, ce message va transformer votre vie. Complètement transformer votre vie. Et au lieu d'attendre que Dieu fasse quelque chose, vous allez commencer à faire quelque chose et voir Dieu travailler avec vous et à travers vous. Et le miracle dont vous avez besoin va se manifester. Amen. Alléluia. La provision dont vous avez besoin va se manifester. Toutes les choses dont vous avez besoin, vous allez voir au nom de Jésus. Matthieu chapitre 16, nous connaissons bien ce passage. Jésus qui a posé la question à ses disciples, « Qui est-ce que les hommes disent que je suis? » Plusieurs réponses. Quelques-uns disent que tu es un des prophètes. Vous connaissez ce passage. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, Simon, Pierre, il a répondu, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu vivant. Ah, tu es heureux. Et donc, pourquoi est-ce qu'il était heureux? Parce qu'il a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et donc, il va continuer en Matthieu chapitre 16. Et ici, on va commencer, on va lire à partir de verset 17. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc, il y a des personnes qui ont compris ce verset d'une mauvaise manière. Ils ont pensé que Jésus était en train de dire que littéralement, il allait bâtir son Église sur l'apôtre Pierre. Et non, même si l'apôtre Pierre avait un rôle intégral et un rôle important à jouer dans la construction et dans l'édification de l'Église, en fait, non, il a dit, tu es Pierre et sur cette pierre, quelle pierre? La pierre de la révélation qu'il venait d'avoir, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. OK? Et la bonne nouvelle, mes amis, c'est que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre l'Église. C'est-à-dire que l'Église que Jésus bâtit est indestructible. Et l'Église, on sait que c'est l'Église universelle, mais c'est aussi l'Église locale, comme nous sommes à l'Église locale ici. Je suis convaincu que si vous bâtissez avec Jésus et si vos pasteurs, avec l'équipe et tout le monde ici, continuent à se laisser conduire par Jésus, le chef de l'Église, que cette Église va être une Église indestructible. Amen. Mais l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est les gens, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous, individuellement, Jésus est en train de dire, « Je vais vous construire, je vais vous bâtir et les portes du séjour de mort ne peuvent pas prévenir contre vous non plus. » Amen. Tout le monde dit, « Je suis indestructible. » Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Regarde ton voisin, ta voisine et dis, « Tu es indestructible. » Alléluia. Mais regarde, donc Jésus dit, « Je bâtirai mon Église. » Donc, c'est qui bâtit l'Église? OK. Jésus bâtit. C'est qui a fendu la mer Rouge? C'est Dieu. OK. C'est qui a fait tomber les murs de Jéricho? C'est qui a tué Goliath? C'est Dieu. Mais est-ce que Dieu l'a fait tout seul ou est-ce que Dieu a agi à travers un homme? Dans tous ces cas, il a travaillé à travers des hommes. Et donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Jésus dit, je bâtirai mon Église, mais il ne va pas le bâtir d'une manière sans avoir l'aide des hommes et des femmes ici sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec lui, il travaille avec nous. Et c'est pourquoi le prochain verset ici, il dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. Et donc, c'est quoi la prochaine chose qu'il dit? Il dit en verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus a dit, j'étais mort, je suis vivant, je tiens les clés. Mais il avait dit ici, je te donnerai les clés. Donc, Jésus a donné les clés du royaume à son Église. Oh, ça, c'est bien trop calme. Avez-vous remarqué? Avez-vous compris? Jésus a dit, je te donnerai les clés. Tout le monde dit, j'ai les clés. Encore une fois, j'ai les clés. Le problème, souvent, c'est qu'on ne sait pas qu'on a la clé. Ça m'est déjà arrivé à Drummondville une fois que je pensais que ma femme est partie avec les clés, donc j'avais la voiture à l'église et j'avais besoin d'appeler un membre de l'église qui n'était pas trop loin, dit, écoute, désolé, mais je n'ai pas mes clés. Est-ce que tu peux me faire un lift et je vais chercher mes clés à la maison et revenir chercher ma voiture? Donc, c'était toute une histoire. Donc, ça a pris quand même un peu du temps. Et finalement, en arrivant à la maison, je ne trouve pas ma clé. Mais j'ai fouillé et donc, finalement, c'était dans une poche de mon manteau. J'avais la clé sur moi tout le temps, mais je ne savais pas que j'avais la clé. Et parce que je ne savais pas que j'avais la clé, j'attendais que quelqu'un d'autre vienne en secours. Combien de vous, vous avez la clé sur votre personne, spirituellement parlant, mais vous attendez que quelqu'un vienne à votre secours? Mais vous avez la clé. Regardez quelqu'un dire, tu as la clé. Alléluia. Je te dis, ce message est important. Je tiens les clés, il a dit, mais il a dit, je te donnerai les clés. Amen. Pourquoi est-ce que les clés sont importantes? Parce que premièrement, les clés ouvrent les portes, n'est-ce pas? Et les clés barrent les portes aussi. On peut ouvrir et on laisse entrer les gens qu'on veut et on peut garder dehors les gens qu'on ne veut pas, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui barrent la porte de la maison des fois? Il y a une raison pour cela. C'est parce qu'on ne veut pas que tout le monde entre dans notre maison. Et dans votre vie aussi, il y a des choses de l'ennemi que tu ne veux pas laisser entrer, mais c'est toi qui as la clé. Et tu peux résister au diable. Tu peux dire, non, je te garde dehors. Tu n'as pas le droit d'entrer. Amen. Les clés peuvent aussi déclencher justement la puissance. Tu peux avoir une belle voiture, quelqu'un peut te donner un Porsche ou un BMW et tu gardes ça devant ta maison ou dans un garage. Et c'est génial d'avoir un BMW, mais si tu n'as pas la clé, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait absolument rien. Hein? Mais si tu as la clé, tu peux démarrer et tu peux déclencher la puissance qui se trouve dans le moteur de cette voiture, n'est-ce pas? Laisse-moi vous dire, Jésus vous a déjà donné tout ce qui vous avez besoin, tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Vous êtes déjà béni avec toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, mais c'est la clé qui va démarrer ces bénédictions dans votre vie. Mais trop des gens, ils attendent que quelqu'un vienne démarrer pour eux. On va revenir à cela. Donc, la clé, ça représente l'autorité. Ça ouvre les portes, ça ferme les portes, ça déclenche la puissance. Mais une autre chose qu'il ne faut pas oublier concernant les clés, c'est que les clés ne marchent pas partout. Il y a certaines clés qui marchent dans certains endroits. Amen. Ça, c'est la clé pour ma voiture. Si j'aime mieux ta voiture que la mienne, parce que la mienne, à un certain âge, et peut-être vous avez une voiture de l'année, je dis, ah, je ne peux pas juste prendre ma clé et aller partir votre char. Vous êtes d'accord? Hein? Donc, spirituellement, c'est un peu la même chose. Et c'est là où beaucoup de gens, ils ont de la misère à comprendre que, OK, je sais que, par exemple, Dieu m'a donné tellement de promesses. Il m'a dit que je devrais avoir une vie prospère. Comme 3 Jean 2 dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Tu te dis, « Wow, c'est ça que Dieu dit, c'est ça que je veux. » On peut lire toutes les promesses concernant la guérison. Je sais que Pasteur Donato vient. Pasteur Donato, c'est un de mes meilleurs amis. Hein? Je le connais depuis 1988. 88 ou 9 à Bruxelles. Et ça, c'est à ne pas manquer. Juste un petit pub, à ne pas manquer les réunions avec Pasteur Donato. Hein? C'est trop bon. Mais laisse-moi vous dire que quand on parle de la guérison, quand on parle de la prospérité, quand on parle de la paix intérieure qu'on peut avoir, toutes les belles promesses de Dieu, ça prend la clé pour en avoir accès. Amen? Encore, combien de personnes... Ils ont la clé, mais ils ignorent qu'ils ont la clé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de barrer la porte de la maison et puis de revenir à la maison et de ne pas avoir la clé sur vous? Qu'est-ce que ça fait? C'est frustrant, n'est-ce pas? Surtout parce qu'on peut être sur le perron, on peut même regarder par la fenêtre et on voit par la fenêtre toutes les choses qui nous appartiennent. On dit, waouh, ça c'est ma télévision, c'est mon frigo, j'ai faim, j'aimerais bien manger. Je vois mon portefeuille qui est sur la petite table à côté du divan et c'est mes meubles, c'est mes choses et je ne peux même pas toucher à ce qui est à moi. C'est parce que je n'ai pas la clé. Donc, on va chercher une fenêtre qui est ouverte, on va faire tout ce qu'on peut pour entrer dans la maison. Trop souvent, il y a des chrétiens qui vont vivre leur vie chrétienne comme ça. C'est comme s'ils sont sur le perron de la vie chrétienne et ils voient par la fenêtre de la parole même. OK, est-ce que vous avez compris cela? Je suis excité. Pourquoi? Parce que je prêche à moi-même ce matin. Parce que trop de chrétiens sont sur le perron de la vie spirituelle en train de regarder, « Ah, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, mais je ne peux pas toucher à ça. » Et pendant des années et des années et des années, ils ne touchent pas à la guérison, ils ne touchent pas à la prospérité, ils ne touchent pas à la paix, ils ne touchent pas à toutes les belles choses que Dieu a promis dans notre vie. Pourquoi? Parce que la porte est barrée! Mais j'ai une bonne nouvelle. Vous avez la clé. Tout le monde dit, j'ai la clé. J'ai la clé. Alléluia. J'ai la clé. Encore une fois, j'ai la clé. Donc, il faut savoir que vous pas allez avoir, mais comme Suzy a bien dit ce matin, c'est une chose qui est déjà faite. Jésus vous a déjà donné la clé. Donc, premièrement, il faut savoir, j'ai la clé. Encore une fois, j'ai la clé. Deuxièmement, il faut savoir dans quelle porte cette clé marche et où est-ce que cette clé doit marcher. C'est comme l'autre jour, j'ai ouvert un tiroir chez moi et j'ai vu une clé. J'ai dit, c'est quoi cette clé? Et donc, j'ai allumé. Ah, ça, c'est la clé de mon ami en Alabama. Je suis allé avec lui, en fait, il y a quelques ans, et il m'a prêté une clé de sa maison. Comme ça, il a dit, si je ne suis pas là, tu peux entrer dans la maison. Je garde sa clé. Mais la clé marche seulement en Alabama. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si on revient à notre texte ici, en Matthieu chapitre 16, il a dit, je te donnerai des clés. OK? Est-ce que tout le monde est là? Verset 19. Matthieu 16, 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu lieras où? » Sur la terre. Tout le monde dit « sur la terre ». Et c'est ça la chose qu'on a besoin de comprendre. Dieu a donné la clé à Adam et Ève. Ces clés marchent sur la terre. OK? Pourquoi est-ce que Jésus avait besoin de quitter les cieux et venir sur la terre? C'est parce qu'il avait besoin justement de reprendre les clés et il les a redonnées à l'Église qui est encore sur la terre. C'est pourquoi ça ne donne absolument rien de prier les gens qui sont déjà partis et qui sont déjà au ciel. Parce qu'il y a des choses légalement, spirituellement, qui doivent être débarrées et qui doivent être barrées ici sur la terre. Et il y a un grand homme de Dieu, le fondateur de l'Église méthodiste, qui a même dit, « Il me semble que Dieu ne peut rien faire à moins que quelqu'un sur la terre lui demande dans la prière avec foi. » Et c'est vrai. Et c'est pourquoi ça ne donne absolument rien de dire, « Oh Seigneur, tu sais que je suis malade. Oh Seigneur, tu sais que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci et j'ai besoin d'autre chose. Oh, je sais que tu m'aimes, je sais que tu vas prendre soin de moi. » Et on attend, et on attend, et on attend. Et Dieu est en train de dire, écoute, c'est toi qui es sur la terre. Cette porte doit être débarrée sur la terre. Quelqu'un sur la terre doit demander, et ensuite, la porte va se débarrer. Amen. Donc, il faut savoir que vous avez la clé, mais il faut savoir que la clé doit être utilisée sur la terre. Et plus spécifiquement, il y a certaines portes sur la terre où la clé va marcher. Et pour savoir cela, il faut fouiller, il faut chercher, il faut sonder votre Bible et trouver les promesses spécifiques. Hein? Vous allez voir, il y a des promesses spécifiquement pour la guérison divine. Et dites, OK, j'ai la clé pour la guérison. Je peux demander avec foi et tout ce que Jésus a acheté pour moi à la croix m'appartient. OK? C'est à moi et je peux ouvrir la porte de cette bénédiction et de cette promesse avec la clé. De la guérison, de la prospérité, de la paix, de la sagesse. Quelqu'un parmi vous manque de la sagesse qui demande à Dieu, qui donne à tous librement, sans reproche, mais qui demande avec foi. Donc, on a la clé. Tout le monde dit, j'ai la clé. Donc, il faut savoir que vous avez la clé et ensuite, il faut prendre le temps d'être familier avec les portes qui sont indiquées dans la parole. Vous avez des belles promesses ici. Amen. OK? Sachez que vous avez la clé. Sachez dans quelle porte ces clés vont marcher. Parce que la clé ne va pas marcher pour les choses qui ne sont pas promises. Moi, je connais des personnes qui ont fait naufrage dans leur foi parce qu'ils ont essayé la clé. La clé n'a pas, entre guillemets, fonctionné. Mais dans le fond, ils étaient en train de mettre la clé dans une mauvaise porte. Ce n'était pas une porte promise. Je vais vous donner un exemple. Un jeune homme qui était à l'école secondaire, a demandé à Dieu dans une prière. Il a dit, « Seigneur, je veux tellement jouer au basket. Je veux être accepté dans l'équipe de basket de mon école. Donc, Seigneur, je prie que je sois choisi par le coach pour faire partie de l'équipe. » Mais savez-vous quoi? Il n'a pas été choisi. Et donc, il a dit, « Bon, mais si Dieu n'a pas répondu à cette prière, peut-être Dieu n'existe pas. Il est devenu athée, il est devenu alcoolique, il est tombé dans toutes sortes de problèmes jusqu'à l'âge de 40 ans. » Et quelqu'un a expliqué qu'on ne peut pas demander n'importe quoi. Il faut demander les choses qui sont promises dans la parole. Amen. On ne peut pas juste essayer la clé dans n'importe quelle voiture, dans n'importe quelle porte. Il faut trouver les promesses, dire « OK, j'ai la clé » et la clé marche dans cette porte et dans cette porte parce que j'ai les versets de la Bible qui me donnent ces promesses. Amen. Mais une fois que vous savez que vous avez la clé et une fois que vous savez dans quelle porte ces clés marchent, arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre ouvre la porte pour vous. Et c'est là où la plupart des chrétiennes vont échouer. Et moi, j'avais besoin de me corriger parce que c'est vraiment une fine ligne entre la foi où on sait qu'on sait qu'on sait que la chose que Dieu m'a promis, que quand je demande, je crois avoir reçu. Qu'est-ce que Jésus a dit à Marc chapitre 11? Il a dit, en vérité, je vous dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, il faut demander et il faut croire que vous avez déjà reçu, même avant de voir. OK? Mais beaucoup de chrétiens, si vous êtes honnête, avec vous et avec Dieu, vous n'êtes pas rendu là où vous êtes convaincu que, OK, Dieu me l'a promis, j'ai la clé. Quand j'utilise la clé, j'ai reçu. C'est toujours cette espèce d'espérance. Peut-être un jour, je vais être guéri. Peut-être un jour, je vais avoir... Dieu va faire quelque chose. Peut-être un jour, Dieu va me donner la chose dont j'ai besoin. Au lieu de, comme Suzy a dit, non, c'est déjà fait, il l'a déjà donné. La guérison vous appartient déjà, mes amis. C'est déjà procuré à la croix. Et c'est à nous maintenant de prendre les clés. Combien de vous, vous avez déjà signé un bail sur un appartement dans le passé? Peut-être vous avez un bail actuellement. Bon, quand vous signez le bail, le propriétaire va vous remettre les clés. OK? Vous avez déjà acheté ou loué une voiture. Qui a déjà acheté ou loué une voiture? Et ils vont vous remettre les quoi? OK. Donc, imaginez que vous signez un bail, vous avez la clé de la maison. Et donc, vous venez d'acheter une nouvelle voiture et vous avez la clé de votre voiture, de votre char. OK? Donc, vous quittez le concessionnaire avec votre nouvel char et wow, vous êtes bien content, vous roulez dans votre BMW ou quoi, peu importe, ou votre Chevrolet, peu importe. Et vous arrivez chez vous, vous dites, wow, ça c'est vraiment belle voiture. Donc, mais vous arrivez devant la porte, vous prenez votre cellulaire et vous appelez votre propriétaire. Bonjour, Monsieur Leblanc, je suis arrivé chez moi. Peux-tu venir m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il va dire? Mais tu as la clé. Oui, mais la maison est à toi vraiment. Donc, est-ce que tu peux venir ouvrir la porte? Hein? Imagine, ils viennent, ils ouvrent la porte. Et donc, le lendemain, vous vous réveillez le matin pour aller au travail. Et en quittant la maison, vous prenez le cellulaire. Hey, Monsieur Leblanc, peux-tu venir barrer la porte parce que je vais au travail? Tu vas devant ton char, tu appelles le concessionnaire. « Ah oui, monsieur Lebrun, peux-tu venir démarrer ma voiture pour moi ce matin? » Ouais, tu n'as pas la clé? Oui, j'ai la clé, mais écoute, je ne me sens pas digne d'ouvrir ma propre porte ou de partir mon propre moteur. Vous voyez, ça serait comme ridicule, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous êtes fous! Vous avez les clés! C'est pourquoi je vous ai donné les clés. Comme ça, vous pouvez ouvrir votre propre porte, vous pouvez barrer votre propre porte, vous pouvez partir le moteur de votre propre char et vous pouvez vivre comme ça avec la puissance qui vous est légalement confiée parce que vous avez les clés. Pourtant, combien de fois on est là devant un besoin? Le corps dit que oh, j'ai des symptômes, je suis malade, ça ne va pas. Le compte de banque dit que ça ne va pas. La morale dit que ça ne va pas. Et donc, oh, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Seigneur, j'ai besoin de la guérison. Je ne peux plus comme ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Tu as la clé! Vous me regardez comme si je suis un extraterrestre. Je sais, c'est comme... Est-ce que c'est de la blasphème? Non, c'est la Bible. C'est la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. OK? Mais quand on demande, on doit demander avec foi. Vous savez, c'est comme... Est-ce qu'il y a des gens qui ont un compte à banque? OK? Imaginez, vous allez à votre succursale et vous savez que vous avez 1000 $ dans votre compte et vous voulez demander un retrait de 300. OK? Quand vous vous approchez du comptoir et vous faites une demande, j'aimerais demander de retirer 300 $, s'il te plaît. Non, tu sais que si tu demandes, OK, si tu ne demandes pas, tu ne vas jamais l'avoir. que ce soit au comptoir ou que ce soit au guichet automatique avec votre carte de débit dans le guichet automatique, vous mettez votre PIN et vous faites une demande. Vous demandez de retirer l'argent et vous faites ça avec confiance. Pourquoi? Vous avez la clé, mais vous avez aussi le droit légal parce que cet argent vous appartient. Donc, vous demandez et vous recevez et vous n'avez aucun doute. La fille au comptoir ne va pas dire, je ne sais pas, laisse-moi aller parler avec le gérant, on va voir si c'est sa volonté ou non. Non, aujourd'hui, c'est... Elle va certainement pas dire, mais peut-être oui, peut-être non, ou peut-être on va te faire attendre un peu. Non, c'est des choses qui sont dans votre compte, ça vous appartient, et vous avez la clé, vous avez votre NIP, n'est-ce pas? C'est quoi la clé que nous avons? C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Tout le monde dit Jésus. Jésus est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il nous a donné le pouvoir d'utiliser son nom. Il nous a donné le droit d'utiliser son nom. C'est la procuration, si on veut parler en termes légaux. Nous avons le droit de réclamer tout ce qui est à nous. Et c'est pas une chose extraordinaire qu'on demande parce que comment celui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Ces choses nous sont déjà données. C'est pas comme si on demande, c'est autre chose si tu vas à la caisse et tu demandes « j'aimerais retirer 5 000 » et tu n'as que 1 000 dans le compte. Non, ça c'est pas bon, vous pouvez pas être sûr. Mais on sait qu'est-ce que Dieu a déjà mis dans notre compte spirituel. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Toutes ces choses nous appartiennent. Le salut de notre âme, la guérison de notre corps, la délivrance de la pauvreté, toutes ces promesses sont oui et amen. C'est déjà déposé dans le compte. Jésus a payé cher avec son propre sang. Ces choses sont à nous. Il nous a donné la clé et il a dit, faites les retraits à volonté pour faire ma volonté ici sur la terre. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus a dit de prier que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel? Quelqu'un ici sur la terre a besoin de demander, de faire la demande. Amen. Tout le monde dit, j'ai les clés. On va se lever, on va prier ce matin. Alléluia. Beaucoup d'autres choses que je peux dire, mais est-ce que vous avez compris que vous avez les clés? Vous n'avez pas besoin d'appeler le propriétaire pour demander que le propriétaire, ou dans ce cas-là, on n'a pas besoin de demander à chaque fois ou d'attendre que Dieu vienne spécialement pour ouvrir les portes pour nous. Il nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Et il veut. Il nous aime. Alléluia. Moi, je suis parent. J'ai 5 enfants, j'ai une belle fille, j'ai une petite fille. Et laisse-moi vous dire, si on fait quelque chose pour nos enfants, c'est parce qu'on aime nos enfants. C'est parce qu'on veut que tous leurs besoins soient rencontrés. Et si moi, étant un père terrestre, si j'ai une attitude comme ça, à combien plus fort raison est-ce que je peux être sûr et certain que mon Dieu, il veut que nous ayons toutes les choses dont nous avons besoin dans cette vie. Amen. Il nous aime. Alléluia. Et donc, je suis convaincu que même ce matin, il y a des besoins qui sont représentés. Il y a des personnes qui sont malades. Il y a des personnes qui ont besoin d'emploi. Il y a des personnes qui luttent avec les choses émotionnelles. Peut-être il y en a ici qui luttent avec la dépression. La joie de l'Éternel sera votre force. Mais vous avez les clés. Vous avez les clés. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Vous n'avez plus besoin d'attendre. On va prendre ces clés. On va les utiliser. Alléluia. Père Céleste, je prie ce matin que tu puisses nous donner un esprit de sagesse et de révélation. Seigneur, qu'on n'attend plus. Si les enfants d'Israël auraient attendu que les murs tombent avant de pousser des cris, les murs seraient encore là. Si Moïse n'aurait pas fait l'acte de tendre sa main vers la mer Rouge, les eaux n'auraient pas été fendues. Donc, tu attends à ce que nous prenions les clés que tu nous as données, c'est-à-dire que le nom de Jésus que tu nous as confié et qu'on utilise le nom de Jésus. Mais avant de l'utiliser, tu veux, Seigneur, qu'on prenne du temps à méditer dans ta parole, à trouver les portes et de promesses, Seigneur, toutes les choses qui sont écrites, noir et blanc, les promesses de Dieu qui nous appartiennent, Seigneur. Une fois qu'on est vraiment familiarisé avec ces portes, Seigneur, on peut prendre le nom de Jésus, on peut se tenir devant cette porte et on peut dire, au nom de Jésus-Christ, je réclame ce qui m'appartient. Seigneur, je te remercie pour cette guérison qui m'appartient. Seigneur, au nom de Jésus, on résiste l'ennemi, on résiste celui qui vient pour voler, pour égorger, pour détruire. Et on repousse l'ennemi, on barre la porte pour l'ennemi, on ne donne plus accès à l'ennemi, on va expulser l'ennemi de notre vie. Et on va laisser entrer le roi de gloire. On va laisser entrer les bénédictions de Dieu. Mais c'est nous qui... Nous avons les clés, Seigneur. Tu attends qu'on utilise nos clés. Ô Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te remercions pour cette révélation. Pour cette révélation. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je vais prier pour vous. Mais ce que j'ai vraiment dans mon esprit... Parce qu'il y a différents moyens de faire du ministère. On peut faire du ministère avec une onction spéciale. On peut imposer les mains aux gens. Mais ce que j'ai vraiment dans mon esprit, je ne veux pas faire quelque chose pour encore une fois donner l'impression que « Oh, ça n'a toujours pas fonctionné. » Ce que j'ai vraiment dans mon esprit, c'est de vous exhorter à prendre une décision ce matin qu'à partir d'aujourd'hui même, vous allez ouvrir votre Bible et vous allez chercher les portes de ces promesses. Là où vous avez un besoin, si c'est un besoin physique, vous avez besoin de prendre une décision aujourd'hui même, hein, de dire, OK, je vais ouvrir ma Bible, je vais trouver des promesses qui me montrent clairement que ça, c'est une chose que Jésus a mis dans mon compte. La guérison m'appartient. Il faut que vous soyez convaincus que ça vous appartient afin de vous approcher de lui avec confiance. Il faut savoir qu'il y a assez d'argent dans le compte avant de demander à la fille du guichet de retirer cet argent. Donc, plus vous savez qu'est-ce qui vous appartient, plus vous aurez confiance de dire, « Ah, ça c'est à moi, j'ai la clé, au nom de Jésus, je réclame cette guérison. C'est à moi. » Et je refuse, après ça, je refuse de laisser l'ennemi revenir voler qu'est-ce que Dieu m'a déjà donné. Jésus a payé pour votre guérison. Jésus a payé pour votre prospérité. Jésus a payé pour votre paix intérieure. Jésus-Christ a payé cher. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Son sang a coulé. Il a payé cher. Il veut que vous preniez vos clés. Donc, ma prière, justement, c'est que vous ayez la révélation et que vous preniez le temps cette semaine. Amen.